Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Édouard.
Bonjour frère Louis.
Nous avons achevé la dernière fois le paragraphe sur l'Église instituée par le Christ Jésus, au numéro 763 à 766 du catéchisme de l'Église catholique. Et nous abordons maintenant le thème de l'Église manifestée par l'Esprit Saint, à partir du numéro 767. Quel rôle l'Esprit Saint a-t-il sur l'Église après l'institution par Jésus ?
C'est une très bonne question parce que on pourrait se dire le Père a envoyé le Fils a constitué son groupe qui est les 12 apôtres et puis ça continue et puis de croire que un peu comme de génération en génération. Un grand-père crée une entreprise, un fils la prolonge, le petit-fils essaie encore de continuer, etc. Mais il y a cette présence de l'Esprit-Saint qui montre que, bien sûr, Jésus assiste par ce don de l'Esprit-Saint son Église, sans quoi elle n'aurait pas la possibilité, dans le fond, de se maintenir. L'Esprit-Saint vient faire que nous ne sommes pas une institution humaine, nous sommes une institution divine et vient faire que l'inspiration des apôtres et des successeurs des apôtres n'est pas une inspiration purement humaine. Et tout de la même manière, l'Esprit Saint, parce qu'il souffle et qu'il est donné au moment du baptême, qu'il est donné au moment des sacrements, l'esprit de vie, l'esprit de feu vient, animer ce corps, sinon ce serait un corps, comme une société purement ordinaire.
Et cette présence de l'Esprit Saint se manifeste à quel moment pour l'Église ? Est-ce qu'il y a un moment de manifestation que l'Église est habitée par l'Esprit Saint particulier ?
Alors, au moment de la Pentecôte, c'est clair que dans les Actes des Apôtres, il y a cette manifestation tout au début des Actes des Apôtres de la vie de l'Église. Et je crois qu'il faut toujours revenir au moment, moteur de ces manifestations pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puisque grâce à cette transformation, le jour de la Pentecôte, c'était déjà une fête juive, c'était la fête des semaines, comme on l'appelait, après la Pâque, qui permettait un prolongement de la vie de Pascal. Eh bien, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient, les apôtres, tous ensemble, dans un même lieu, nous est-il dit en Actes chapitre 2, verset 1, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. C'est déjà l'image de l'Église, cette maison où ils se tenaient. Et le souffle qui les anime, sur lequel ils vont souffler, va tout transformer. Et Acte 2, 3 dit donc, ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu, elles se partageaient, elles s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bon, qu'importe que ce soit d'autres langues, l'essentiel c'est qu'ils s'expriment. Ils s'expriment au nom de ce qu'ils ont reçu, au nom de ce souffle de l'Esprit Saint. Donc il y a vraiment une animation, un peu comme un corps qui serait inanimé. On voit ça dans Ézéchiel, quand il voit les ossements desséchés, puis tout d'un coup, Dieu lui demande de prophétiser sur ses ossements, puis ses ossements prennent vie. Et d'une certaine manière, l'Église se constitue sous le souffle de l'Esprit, et l'Esprit vient leur rendre, les dons dont ils ont besoin, les dons spirituels, les dons charismatiques dont ils ont besoin pour pouvoir animer ce corps.
Alors l'Esprit Saint est comme il a en lui-même substantiellement quelque chose qui en lui qui attire toujours au Christ, et le Christ attire toujours vers le Père. Donc si l'Esprit Saint est dans l'Église, et il va y avoir comme une animation de l'Église à vouloir attirer tous les hommes au Christ, alors je pense qu'elle l'a déjà d'une manière institutionnelle. Jésus avait envoyé les apôtres annoncer la venue du royaume. Mais avec l'Esprit Saint en son cœur, il doit y avoir un bouillonnement missionnaire de l'Église qui devrait transparaître, j'imagine.
Oui, et en particulier par rapport à la vérité, n'oublions pas que quelle est la première caractéristique, qualité que Jésus donne à l'Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Hein, je vous rappelle, en Jean chapitre 14, verset 16, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. » L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous. « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous verrez que je vis et vous aussi vous vivrez. » Donc, je dirais, les deux sont liés, évidemment, le don de la présence de Jésus et le don de l'Esprit-Saint. Hein, ce paraclet, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, il y a à la fois une prolongation de l'enseignement et en même temps un rappel, c'est-à-dire tout ce que Jésus a dit pendant, finalement, le temps assez bref où il a eu cette vie terrestre de 3 ans. Eh bien, l'Esprit Saint est sans cesse là pour nous le rappeler, hein, pour le rendre vivifiant, et peut-être même pour nous faire découvrir des angles sous lesquels nous n'avons pas tout saisi encore. Et de temps en temps, l'Église rajoute une fête, par exemple la fête du Sacré-Cœur, elle peut rajouter la fête de la Miséricorde, la maternité de la Vierge Marie, par rapport à l'Église, Mère de l'Église, ce sont des fêtes qui n'étaient pas tout au début de l'histoire de l'Église, mais qui sont ajoutées justement parce que l'Esprit-Saint agit. L'Esprit-Saint vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, mais comme c'est tellement grand ce que Jésus a fait et a dit, ben, il faut des générations et des générations pour l'entendre, l'assimiler, le développer, et finalement faire que cette petite communauté initiale, ce compagnonnage qui était comme une toute petite famille, devienne une immense famille, la famille de Dieu, des enfants de Dieu sur la terre.
Et au numéro 768, on voit que pour accompagner cette mission, l'Esprit Saint ne nous laisse pas sans aide. Voilà, je vous lis les deux lignes. Pour réaliser sa mission, l'Esprit Saint équipe et dirige l'Église grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Parce qu'en parlant avec toi, je me disais, et ça veut dire qu'il faut toujours se remettre en cause pour aller voir les gens, aller au métro, rayonner de la joie du Christ un peu partout où on va. Mais je vois que c'est d'abord des dons de l'Esprit-Saint qui nous permettent de faire ça, et puis qu'il y a des dons à la fois hiérarchiques et par ailleurs aussi charismatiques. Quels sont ces deux dons
Alors, autrefois, je dirais dans les premiers textes des Pères de l'Église, c'était tout un, parce que le mot charisme veut dire grâce gratuite. Or, tout est gratuit. Et donc, du coup, on distinguait les grâces gratuites pour le bien du corps et les grâces sanctifiantes, qui sont tout aussi gratuites, si vous voulez, mais qui sont pour la sanctification de chacun. La grâce sanctifiante, comme on dira plus communément après. Mais ces dons gratuits sont pour l'édification du corps. Déjà, certains sacrements sont plus pour l'édification du corps. Par exemple, le mariage, c'est pour que le mari sanctifie sa femme et que sa femme sanctifie son mari, ainsi que les enfants. Donc il y a vraiment une source de sanctification à travers un sacrement. Le sacrement de l'ordre est tout destiné à la sanctification du peuple de Dieu dans son ensemble, en un sens plus large seulement que le simple mariage. Donc des éléments déjà dans les sacrements, dans la structure des sacrements, nous montrent bien que c'est là la finalité. Or, les charismes sont donnés justement pour cette finalité, la constitution du corps. Et initialement, dans l'histoire de l'Église, donc, on a bien compris que tout était charisme. La preuve, saint Irénée dit « Ubi charismata Dei posita sunt », là où les charismes de Dieu sont déposés, sont donc reconnus. Ibi, là, opportet discere veritatem. Là, il convient d'apprendre, de discerner la vérité. Et c'est toujours ce souci de la vérité, car Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il veut que nous adhérions devant Pilate. Il a même dit qu'il n'était venu que pour rendre témoignage à la vérité. Donc l'importance de cette vérité qui doit être sans cesse rappelée, vérité morale sur comment faire pour être en conformité avec Dieu, et vérité dogmatique, comment le louer, comment le rentrer dans une doxologie qui soit saine. Et cet ensemble fait qu'il y a des dons hiérarchiques qui sont déjà des charismes. C'est ça qu'il faut comprendre. Et saint Irénée mettait dans ses charismes la hiérarchie.
Ah oui, ah oui.
Donc c'est assez frappant. Alors pourquoi les distinguer? Parce que leur fonction est différente. Entre les charismes, je dirais, qui sont uniquement de développement dans l'ordre de tout ce qui est bon pour cet accroissement de l'Église, comme les charismes de prédication, les charismes caritatifs, les charismes multiples et variés qu'on voit dans les institutions, et notamment les institutions religieuses, qui ne peuvent être fondées qu'autour d'un charisme. Toutes ces institutions montrent bien qu'il y a de multiples charismes, et pour que ces charismes ne tiennent au long de l'histoire, il faut qu'ils soient raccordés au Christ. Et comment les raccorder au Christ ? Eh bien, les raccorder à la hiérarchie, les raccorder au Christ, je dirais, prêtre, qui les rassemble et qui fait qu'à ce moment-là, on voit cette hiérarchie se faire. Et cette hiérarchie va donc donner du corps à l'ensemble de ces institutions charismatiques. Sans la hiérarchie, eh bien, je dirais, ça pourrait se déliter facilement. C'est ça le problème, c'est que sans hiérarchie, très vite les charismes se délitent.
Se délitent. Bon, que l'Esprit Saint nous remplisse de charisme, alors.
Merci.
À bientôt.